Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en compagnie d'Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et de Fanny De Citre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune, membre du réseau de librairies indépendantes Initiale. Vous êtes bien sur Bac FM et nous sommes en studio enfin réunis tous les trois parce que d'habitude, par la magie du montage, nous sommes les uns après les autres. Mais cette fois, nous sommes bien tous les trois. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Ce mois-ci est riche en parutions de livres qui donnent vraiment envie. Alors citons pêle-mêle La Maison Enchantée d'Agathe San Juan aux Forges de Vulcain. Une histoire qui ne m'a pas laissée indifférente, avec des estampes dedans, et surtout une interrogation profonde sur la beauté. Mais aussi plus au nord, alors vraiment beaucoup plus au nord, mais on ira aussi au nord tout à l'heure, un roman traduit du norvégien qui s'intitule « La vallée des fleurs », publié aux toujours excellentes éditions La Peuplade, dont l'héroïne inuite se rappelle qu'enfant, elle a voulu sauter par la fenêtre pour s'envoler. Car les mots nous transportent. Les lettres aussi, parfois, juste une peut suffire. J'en veux pour preuve les propos du traducteur Jean-François Alain dans un article récent de Télérama. Vous aurez peut-être remarqué que vos journaux écrivent le nom de la capitale de l'Ukraine désormais Kiev, alors je prononce comme je peux, et non plus Kiev, c'est-à-dire K-Y-I-V et non plus K-I-E-V, comme moi je l'ai appris en histoire. Quand j'étais en classe de 6e, devant ma carte du continent européen, car Kiev est la graphie et la prononciation ukrainienne. L'utiliser est donc un acte politique, voilà. Ça pèse très lourd, une lettre, bien plus qu'on ne croit. Et nous verrons avec notre invité tout à l'heure, Colline Pierret, le poids des mots et le pouvoir de la fiction, en deuxième partie d'émission. Car Colline Pierret, alors elle détourne le réel en rédigeant une biographie uchronique de la poétesse Sylvia Plath. Oui, vous m'avez bien entendu, une biographie uchronique. Là où la poétesse du réel s'est suicidée, eh bien celle de Colline décide de vivre, comme l'indique le titre. Pourquoi pas la vie ? On en a bien besoin en ce moment, de ce pouvoir des lettres, des mots et de la fiction. Mais auparavant, je me tourne vers Arthur, qui a déjà fait lui aussi une belle découverte, un classique.
Et en plus, on va aussi parler du pouvoir des mots, parce que
dans ce beaucoup.
Roman... Alors oui. Justement, j'ai pas l'habitude de présenter des romans classiques, mais ce mois-ci, je vais vous présenter 1984 de George Orwell. Alors, avant de vous analyser un peu le roman, je vais vous faire un petit résumé rapide parce que tout le monde n'est pas au point dessus.
Oui, parce qu'on en parle souvent.
On en parle souvent, mais il n'y a pas tant de gens qui l'ont lu. Ouais. Donc, l'histoire se passe en Océanie. C'est une puissance qui englobe en gros les pays anglo-saxons de nos jours. Et Big Brother, c'est le chef tout-puissant de cette superpuissance, donc qui contrôle et dirige la population par la manipulation, par la surveillance et l'embrigadement.
Ça nous rappelle des choses, dis donc.
Oh.
Oui.
Et donc Winston, notre personnage principal, qui travaille au ministère de la vérité, non assez équivoque, puisque en fait c'est là qu'on réécrit le passé et qu'on ment en gros.
Voilà.
Donc Winston, lui, il est contre Big Brother, mais bien sûr il peut pas le dire parce que ça serait suicidaire et il serait vaporisé.
Oui, c'est pas un destin très enviable. On se dit pas, tiens, j'ai envie d'être vaporisé aujourd'hui. Je comprends, ce pauvre Winston.
Donc il veut absolument renverser le parti, mais c'est compliqué, quoi. Donc pour analyser le roman, en fait, ce roman, il a deux points que j'ai beaucoup aimé. En fait, il analyse le processus d'installation d'un régime totalitaire, donc avec plusieurs processus justement, et aussi il critique le danger de la technologie et de l'information qui peut être manipulée à mauvais escient, et donc il critique les moyens d'information qui sont développés au cours des époques, comme les journaux qui font accéder à une information plus nationale, mais aussi la technologie. En fait, ils critiquent l'information de masse, en gros. Bref. Et du coup, je vais parler d'abord du processus d'installation des régimes totalitaires, donc qui est mis en lumière par plusieurs points. On a d'abord le contrôle du passé, et
ça,
je vais m'appuyer sur une citation. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Donc c'est une citation qui laisse à réfléchir.
Ah bah qui donne bonne matière à réflexion, puisque on sait que c'est tout à fait semblable à ce qui se
c'est
produit.
Ça, parce qu'on sait que le travail d'un historien, ça consiste à reconstituer les faits de manière objective et tout. Et là, dans ce roman, l'historien, il falsifie les faits. Donc c'est en entrave à la vérité, c'est ça. Et donc, on sait que l'étude du passé, ça permet de ne pas reproduire certaines erreurs. Et ici...
Et ça, c'est l'hypothèse haute, hein, mais oui.
Oui, parce que ça, c'est quand même un roman qui se passe en 1984, donc, mais où le régime a pris place après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à ce moment-là, on oublie toute la Seconde Guerre mondiale. On fait comme si elle n'a pas existé. Et donc, on peut pas, la population ne peut pas s'interroger sur la manipulation qu'ils subissent, en fait.
Puisqu'elle n'en a pas conscience.
C'est ça. Donc, l'homme, il se retrouve contrôlé à partir du mensonge. Donc, le mensonge devient vérité, en fait. Donc ça, c'est un des processus. Il y a aussi le processus, justement, du langage. Parce que, alors, je vais parler d'une autre petite citation. « Nous détruisons des mots. Au contraire, par dizaines, par centaines, tous les jours, nous décrissons la langue jusqu'à l'os. » C'est un second engrenage, parce que en fait, on réduit le vocabulaire pour rétrécir le champ de la pensée. C'est ce qui est dit dans le roman.
C'est très efficace, d'ailleurs.
Et donc, c'est ça, par exemple... Je vais donner un exemple assez concret. Tout ce qui est mauvais, ça va plus être mauvais, ça va être un bon.
Le contraire de bon.
C'est ça. Et donc le contraire exact. Et en fait, les gens, ils pourront plus penser à certaines choses et ils pourront plus vraiment être contre le parti si les mots qui sont contre le parti n'existent plus.
Quand on ne peut plus exprimer sa pensée avec des mots, on a du mal à la poser.
Et donc, c'est pour empêcher le mentocrime, comme ils appellent ça dans le roman.
C'est génial, j'adore ces
voilà. C'est génial.
C'est extraordinaire.
Hein.
Donc il faudra que je le relise.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une réécriture là, une retraduction en fait. Et cette retraduction, elle est au présent, que l'autre, il était au passé simple. Et donc, elle est peut-être un petit peu plus facile à lire. Moi, c'est celle que j'ai lue. Et on parle plus de neuves langues comme on parlait dans la première version, mais de néo-parler.
Oh.
Et donc ça interroge un peu. Et à la fin, on explique. Bah, la traductrice explique pourquoi elle a fait ce choix. Bon, là, j'ai plus en tête pourquoi elle a fait ce choix, mais c'est intéressant de se renseigner là-dessus. Et voilà. Et c'est vraiment là qu'on voit l'importance du langage quand même.
Dans mon souvenir, il y avait un appendice à la fin qui présentait les éléments linguistiques,
c'est ça,
qui étaient
exactement.
D'ailleurs passionnants.
Ouais.
C'est là
ouais,
qu'est expliqué son...
Il parle du processus à la fois
son idée.
De réduire, par exemple, comme là je l'ai dit, avec bon, un bon, mais aussi du regroupage de mots. Par exemple, société anglaise, siogang. Bref, voilà.
Oh, c'est très fort. Il est très fort.
Voilà. Ensuite, on a un autre processus, la surveillance. Donc, comme là, on l'a dit avec le mentocrime, voilà. Mais aussi le faciocrime. Parce qu'on étudie avec... En fait, il y a dans le roman une invention technologique qui s'appelle le télécran. Et donc, c'est un écran qui diffuse les programmes de l'État, mais aussi qui vous scrute sans cesse et qui vous écoute sans cesse. Et donc, si on voit une expression qui trahit un trait de la pensée, bah, on peut être arrêté pour faciocrime.
C'est génial. C'est un délit de faciès différent.
Et du coup, on peut contrôler du coup aussi les paroles. Et du coup, tous ceux qui ont des propos déplacés, ils sont vaporisés. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas la notion de tuer, hein.
Bien sûr que non.
Ils sont
on
vaporisés.
Ne tue pas, on vaporise, ça n'a rien à voir, ne confondons
donc,
pas.
Donc, évidemment, c'est pour empêcher la rébellion, mais ça, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et donc, là aussi, on a du coup un avertissement sur les dangers de la technologie, avec le rapport technologie-contrôle. Et donc, c'est presque un roman d'anticipation vérifié, ce qui est assez flippant.
Bah oui.
Parce qu'on peut mettre ça en perspective, bon, avec des pincettes, mais avec le régime chinois, qui a installé 600 millions de caméras de surveillance dans son pays, et qui en prévoit d'en installer 3 milliards.
Sans parler de la notation des citoyens.
Et oui, et aussi tout le système de reconnaissance faciale, ils ont une base aussi de données d'un milliard de voix. Donc ça laisse à réfléchir quand même. Hein. Et donc il a vraiment été voyant sur le coup, et c'est vraiment du génie, quoi.
Il a simplement exagéré les traits de sa
de son époque. Et donc on se dit
simplement, je ne veux pas dire que ça soit simple, oui. En réalité, je veux dire que c'était déjà en germe. Parce que est-ce que tu peux nous rappeler à quelle période ça a été rédigé?
1948.
Voilà. Non mais c'est quand même intéressant.
Et donc c'est un peu flippant parce que bon, vous connaissez ma passion pour les dystopies. Donc je me dis, imaginez les dystopies qu'on écrit aujourd'hui, elles se vérifient par le futur.
Bon, ou le présent.
On le souhaite pas.
Ou le présent.
Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, il y a plein de processus. Bon, j'en passe encore.
Il a au moins 4 pages. Je les vois, moi, avec de belles couleurs bleues, jaunes et roses.
C'est organisé.
Ah, c'est très beau.
Donc, avec toute la négation des sentiments Donc, je fais encore une citation, vider l'acte sexuel de tout plaisir pour rendre le rapport sexuel comme une opération peu ragoûtante. Et le seul but reconnu du mariage est d'engendrer des enfants qui serviront le parti. Donc ici, l'État procède à une négation du bonheur et du plaisir pour que les enfants, en gros, ils deviennent de bons petits soldats pour l'État, quoi.
De la chair
et donc, on a aussi un culte de la jeunesse parce que durant tout le roman, on a les jeunes qui sont poussés à dénoncer leurs parents s'ils voient qu'ils font des choses contre l'État.
C'est pratique, ça, quand même, d'avoir c'est des ça. Petits espions chez soi. C'est
comme surtout que l'État, c'est il fait tout le temps croire que la vie d'aujourd'hui est mieux que celle d'hier. En gros, la vie à l'époque, bah, en 1984, quoi, est mieux que celle d'avant. Et donc, on a toute la propagande encore, et donc encore un avertissement sur la technologie. Et on le voit bien aujourd'hui avec la propagande dans la situation actuelle. Et puis, il y a l'aspect... Il y a la structure aussi du roman qui est super intéressante. En gros, la première partie, c'est la description du régime. La deuxième partie, c'est le processus de rébellion. La troisième partie, je ne vais pas vous le dire quand même.
Non, parce qu'il faut un peu de suspense. Il y a une histoire d'amour d'ailleurs aussi dans le roman.
Oui, une belle histoire d'amour.
Alors je ne sais pas si elle est belle.
Au début.
Pourquoi pas, et
justement, en fait, c'est presque une analyse scientifique qu'on a dans le roman, parce que, comme le disait le politologue Brzezinski, les cinq points d'un régime totalitaire, c'est l'idéologie unique portée par l'État, le parti unique de masse, le monopole des moyens de communication. Donc on sait que dans le roman, il y a quatre ministères, le ministère de l'amour qui est pour faire la guerre, le ministère de la vérité qui est pour mentir, le ministère de l'abondance pour contrôler les denrées, et le quatrième m'échappe, mais
C'est encore une joyeuseté.
Et donc on a aussi, comme le dit le politologue, la direction centrale de l'économie, bon, ce qui est le cas un peu dans le roman, et le gouvernement par la terreur.
Moi, j'inviterais aussi les auditeurs à compléter en lisant les totalitarismes du XXe siècle de Pierre Rosanvallon, qui complète assez justement, cette analyse.
En tout cas, c'est vraiment une analyse intéressante, et c'est ici qu'on voit que même la littérature, elle peut faire une analyse de notre réalité, et que la littérature, c'est vraiment quelque chose d'important quand même.
Ah mais
quelle belle conclusion.
Là, je crois que nous entendons, d'accord. Merci beaucoup, Arthur.
Ouais, avec plaisir.
Pour cette analyse qui donne envie, je pense, de le lire ou de le relire. Moi, je dois dire que ça fait bien. Ça doit faire plus de 20 ans que je l'ai
lu au lycée.
Et puis, j'ai prévu aussi de regarder le film parce qu'il paraît qu'il est excellent.
Le film est pas mal.
Il est sorti en 1984. Mm-hmm. Ben, c'est drôle.
Et je sais qu'on est dans les voies du livre, mais pour aller plus loin, on peut aussi regarder la série Black Mirror.
Oui, évidemment.
Voilà. Qui rejoint un peu ses idées.
Une excellente série.
Qui fait réfléchir, encore une fois, ce qui ne fait jamais de mal, je pense. Merci beaucoup, Arthur, pour cette suggestion. Et j'invite donc les auditeurs à aller consulter tes comptes Facebook et Instagram, l'ado accro au livre,
surtout
sur lesquels
que je me suis lancé dans un nouveau truc.
Ouais.
C'est un classique par mois.
Arthur se réinvente.
Je chronique un classique par mois maintenant. Donc ça peut être intéressant aussi pour découvrir les incontournables de la littérature.
Oui, et puis ton regard est un peu différent, si tu veux, de celui qu'on peut avoir,
c'est ça,
l'habitude
qu'on pouvait avoir à l'époque.
D'avoir sur, sur des textes.
Et puis en plus, c'est vraiment des romans qu'on peut lire même jeune. Parce que 1984, à partir du lycée, c'est totalement lisable.
Lisable. Moi, j'aime bien les néologismes. On voit que tu as
visible, mais
c'est le néo-parlé.
C'est ça.
On voit qu'il y a des effets secondaires, quand même, de 1984. Alors, nous allons, en attendant d'écouter Fanny, faire une première pause musicale en écoutant une chanson de circonstance de Eurythmics, 1984, For the Love of Big Brother. Thank you. C'était donc Eurythmics. Nous sommes de retour sur Bac FM dans les voies du livre. Et après cette plongée dystopique dans le présent, eh bien, nous allons changer totalement d'air puisque nous allons, eh bien, dans le nord.
Oui.
Et aussi dans le temps, puisque nous revenons 10 ans en arrière au moment de la parution de ce roman avec Fanny qui va nous présenter ses coups de cœur.
Exactement. On va commencer avec un roman islandais. Je suis dans une période islandaise en ce moment. Donc,
mais voilà. C'est très beau l'Islande.
Et oui. J'aimerais bien le constater moi-même. Ça a l'air très beau, effectivement.
Si vous y allez, emmenez-moi.
Avec donc un roman de Bergsvein Birgisson.
Ouf, bravo.
Qui s'appelle La lettre à Helga et qui est donc paru en 2013, donc il y a presque 10 ans, aux éditions Zulma. Et cette lettre à Helga, c'est une petite pépite, comme on dit dans le milieu des libraires. Mm-hmm. C'est un petit bijou et c'est la lettre d'un homme qui a à peu près 90 ans et qui écrit donc à cette Helga, qui est la femme qu'il a, peut-être la seule femme qu'il ait jamais aimée. Et c'est une lettre de désir, c'est une lettre d'explication, c'est une lettre peut-être un peu de regret également. C'est en tout cas un prétexte pour raconter leur histoire. Une histoire compliquée, mais une histoire très très belle et très poétique. En fait, cet homme est marié.
Mmh.
Il est fermier. Ils vivent avec sa femme dans un coin reculé.
Ah oui,
de.
Il n'est pas marié avec Helga.
De l'Islande. Non, non, il n'est pas marié avec Helga. C'est là tout le, oui, tout le problème. Et cette Helga, en fait, habite dans la ferme voisine, est mariée également. Et puis, ils se rendent des services mutuels entre fermiers. Et puis, va naître un désir extrêmement fort de cet homme pour Helga. Et puis, il y a des rumeurs qui vont naître sur une relation entre ces deux personnes. Et c'est assez amusant parce que le personnage dit qu'il aimerait que ce soit vrai, tant son désir est fort pour cette Helga.
Ah oui, donc ce sont seulement des rumeurs, ça n'est pas la réalité.
Au début du roman, enfin au début de la lettre en tout cas, mm-hmm. C'est pas une réalité. Et puis, de jour en jour, le désir va devenir de plus en plus fort. Et cet amour va être, va être consommé, c'est pas très beau, mais voilà, entre ces deux êtres qui n'ont pas le droit, en fait, d'avoir cette relation. En fait, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est déjà, bon, la poésie du texte. Il y a une traduction qui est excellente.
Et donc, bravo au traducteur.
Bravo à la traductrice, en l'occurrence, qui est Catherine Eyolfsson, voilà. Mm-hmm. Et puis, il y a quelque chose qui m'a rappelé un peu Steinbeck dans ce rapport que le personnage a avec la Terre. Il y a une relation un peu charnelle, enfin quelque chose de très puissant. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est évidemment cette histoire d'amour contrariée, parce que c'est deux personnes qui ne peuvent pas être ensemble, pas pour les raisons évidentes qui sont, ils sont chacun mariés. En fait, je dévoile pas grand chose, mais en fait, cet homme est presque, comment dire, plus attaché à sa terre qu'à cette femme. Enfin, c'est un peu exagéré, mais voilà, il y a quelque chose de très puissant. Une histoire magnifique.
Donc en fait, il y a trois personnes, l'homme, la terre et la femme désirée.
Et Helga. Et en fait, les conjoints respectifs sont presque des personnages secondaires, on en parle assez peu, parce que c'est pas le sujet presque, c'est pas l'histoire. Et puis il y a des passages aussi parfois assez crus, il y a des passages parfois assez drôles, amusants, il y a vraiment tout. Il y a tout dans ce texte.
Beaucoup d'émotions de toute nature, finalement.
Voilà. C'est, on rit autant qu'on est ému. C'est un tout petit texte. Hein. Ça se lit, il y a à peine 130 pages. Ça se lit très rapidement, mais il y a une force et une puissance absolument magnifiques.
Et on passe par toutes les couleurs de l'émotion.
Exactement.
Eh bien, voilà qui donne envie.
Oui.
Mais alors, j'ai l'impression que le suivant n'a rien à voir.
Mais rien à voir du tout. Du tout. C'est Arthur changeait un peu de registre en présentant un classique. Moi, je vais changer un petit peu aussi en présentant un livre qui est quasi fantastique.
Mais c'est bien de changer de registre. On voit que c'est le printemps.
Mais voilà, oui. Pourquoi pas. Et en fait, ce livre, c'est un petit événement dans le monde de la littérature. C'est pas encore paru. Ça va sortir le 7 avril, il me semble. Donc je vous tease
c'est
un
bientôt.
Petit peu.
Mm-hmm.
Mais c'est du lourd. Et donc ça s'appelle Blackwater c'est un livre qui est traduit pour la première fois en France et qui est sorti dans les années 90 aux États-Unis.
Alors que c'est un classique là-bas, je crois.
C'est un classique, ça a eu un succès mais immense, vraiment immense. Ça a inspiré Stephen King pour écrire La Ligne Verte. Et ça l'a inspiré pour plusieurs raisons. Déjà par le genre du livre, mais aussi par la forme. Parce que c'est ça qui est un petit événement, c'est que en fait, ça va être publié sous la forme d'un feuilleton. Ça a été publié sous la forme d'un feuilleton aux États-Unis. Et c'est publié aux éditions Toussaint L'Ouverture, et ils vont reprendre ce principe-là. C'est-à-dire que le premier tome va sortir le 7 avril, et il y aura une parution ensuite tous les 15 jours. Et il y a 6 tomes au total.
Ce qui est assez audacieux dans le monde éditorial
contemporain. Ce qui est très audacieux, et ce qui est très original, parce que ça se fait plus du tout, quasiment. Et ce qui est presque indispensable, parce qu'une fois qu'on a lu le premier tome, on n'a pas du tout envie d'attendre un mois ou plus pour lire la suite.
Et là, vous n'en pouvez plus.
Moi, j'ai lu les deux premiers. J'ai eu la chance d'avoir les deux premiers en avant-première. Et il va falloir que j'attende, comme tout le monde.
C'est affreux.
La parution du troisième, je n'en peux plus.
Là, vous ne la voyez pas, chers auditeurs, elle tremble.
Alors, avant de vous parler de l'histoire, déjà... Bon, c'est Monsieur Toussaint L'Ouverture, donc c'est à chaque fois des éditions très soignées. Mais là, je trouve qu'ils ont tout donné. C'est un petit livre de poche, mais qui est magnifique.
C'est vrai qu'il est très beau.
D'où je suis.
Ouais, ça brille. Et puis, ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'à la fin, il y a toute l'explication du processus de fabrication du livre. Donc, le type de papier, le grammage.
Oui, c'est un vrai plaisir.
C'est passionnant, je trouve. Enfin, voilà. Donc, une édition très, très soignée. Et donc, Blackwater. Donc, là, je vais vous parler juste du premier tome.
Bah oui.
J'ai lu le deuxième, mais vous verrez par vous-même. Le premier tome s'appelle La Crue. On est en Alabama, début du XXe siècle, ça doit être, je crois, 1910, quelque chose comme ça, dans le petit village de Perdido, qui vient de subir une crue de la rivière qui s'appelle la rivière Perdido. Les habitants se sont réfugiés aux alentours de la ville, et depuis 4 jours, 2 membres de la communauté de cette ville sillonnent les rues en barque pour voir s'il y a d'éventuels survivants. Et puis, ils ne retrouvent personne, tout le monde a été sauvé. Ils commencent de rentrer, et puis ils passent devant un hôtel. Et puis, ils voient une femme, assise sur un lit, dans une chambre de cet hôtel. Ça fait des centaines de fois qu'ils passent devant cet hôtel, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucun signe de vie.
Et là, tout d'un coup,
et là, subitement, cette femme apparaît. Bon, il s'arrête. Il lui porte secours, évidemment, en la questionnant. Une femme très très bien habillée, qui n'a pas l'air... si mal que ça, qui leur explique que ça fait 4 jours qu'elle dort dans cette chambre en attendant les secours, qu'elle n'a pas entendu les cris, qu'elle n'a pas entendu les sirènes.
Tout ça est très étrange.
Tout ça est très étrange, surtout que en repartant, les deux hommes remarquent que la crue est montée bien plus haut que le lit et que les meubles de la chambre.
De plus en plus étrange.
De plus en plus étrange, mais bon, ils portent secours tout de même à cette femme qui s'appelle Elinor, qui va devenir un personnage central de cette série Blackwater. Et en la ramenant au sein de la communauté, cette femme va s'attirer à la fois l'admiration des membres de la communauté comme les foudres de certaines personnes.
Et on l'aime ou on l'adore ?
On l'aime ou on la déteste. On l'aime ou on la déteste. On l'aime ou on la déteste. Et il y a une femme particulièrement qui va la détester, mais alors vraiment d'emblée, qui est Mary Love, qui est un peu la matriarche de cette ville et qui la prend en grippe. Bon, j'en dévoile pas trop, mais c'est...
Déjà, ça donne envie. Hein.
Mais ça, en fait, c'est ce qui est génial dans cette série, c'est que c'est une histoire familiale, une saga familiale, avec tout ce qui est relations, enfants, parents, hommes, femmes.
Donc, il y a du monde.
Il y a du monde. Il y a des sacrées
histoires. Est-ce qu'il faut prendre des notes ou pas?
Il y a un petit résumé au début du livre, avec la généalogie.
Ah oui, ils ont pensé aux lecteurs.
Avec l'histoire des familles. Voilà, il y a même une carte de la ville. Bon, c'est très, très bien fait. Et donc, on est dans cet univers-là, saga familiale, qui rappelle d'ailleurs un peu Twin Peaks. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu la série de David Lynch, parce que la ville est dirigée par 3 grandes familles qui sont dans le bois et qui dirigent des scieries.
Ouh, dis donc, ça a l'air un peu assez... L'univers a l'air assez complexe, assez riche.
Et ça mêle les genres, parce qu'on va avoir aussi un peu de gore,
Diantre du gore.
Très peu, mais...
Rien contre le gore.
Non, mais il ne fait pas semblant. Donc,
C'est un peu inattendu.
Ça surprend. Il y a un peu de fantastique, un peu de surnaturel, mais de manière...
très légère.
Très légère, amenée... J'ai bien aimé, en tout cas, comme ça a été amené. Et... évidemment, très prenant. Et en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est que l'auteur, Michael McDowell, quand il a écrit cette série, l'a écrit sans aucune ambition, enfin, sans aucune prétention, plutôt. Il voulait un livre facile à lire, divertissant, mais divertissant dans le sens le plus noble du terme. Et c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire. On est emporté, on a envie de savoir la suite. C'est bien écrit, c'est bien traduit, c'est bien fait. Voilà, c'est un vrai plaisir.
Vous me laisserez l'exemplaire en partant ?
Je sais pas.
Non, elle dort avec. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ces deux choix qui sont totalement différents. Donc, forcément, les auditeurs choisiront l'un, l'autre, ou pourquoi pas les deux. Je crois qu'il faut, essayer tout dans le grand buffet de la littérature. Il faut goûter à tous les plaisirs. Merci beaucoup, Fanny.
Avec plaisir.
Et en attendant la suite, eh bien, pour nous préparer au grand détournement de la vie que va nous proposer Colline Pierret, je vous propose d'écouter son premier choix musical. You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do, don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me, don't try to change me in any way. You don't own me, don't tie me down, 'cause I'd never stay. C'était « You Don't Own Me » de Leslie Gore, un morceau choisi par notre invité des Voix du Livre, Colline Pierret. Vous êtes bien sur Bac FM dans la deuxième partie de notre émission et nous avons le grand plaisir de recevoir par téléphone une autrice à découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Merci beaucoup Colline d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Colline, vous êtes écrivaine, passionnée par les histoires et par les gens. Vous avez publié de nombreux livres pour la jeunesse chez plusieurs éditeurs différents, Le Rouergue, l'École des loisirs, Flammarion. Alors je pense en particulier à deux ouvrages qui m'ont particulièrement touchée, Clara l'extraterrestre, À quoi servent les humains, tout un programme, mais aussi Ma fugue chez moi, dont l'héroïne a 14 ans, mais c'est un roman qui touchera tous les âges, je pense. Vous avez aussi écrit un essai sur la fiction et les fins heureuses en littérature et au cinéma, et je pense que ça a dû influencer aussi votre choix pour ce roman. Ça s'appelle Éloge des fins heureuse. Et vous travaillez régulièrement avec d'autres auteurs et autrices. Vous présentez aussi des performances musicales ou dessinées en duo, en trio avec d'autres artistes. Et ce n'est pas tout, parce que là, on se dit, mais déjà, ouf, il y a beaucoup de choses, mais il y en a encore. Donc, avec Martin Page, vous avez aussi créé Monstrographe, qui est une maison d'édition, qui est une sorte de laboratoire d'édition, qui publie des livres qui sortent des sentiers battus. Certains sont dessinés à la main, certains sont des essais plutôt iconoclastes, certains sont des ouvrages collectifs aussi, qui interrogent les conditions de vie et de travail des artistes aujourd'hui. Alors, vous vous intéressez plus largement aux questions de l'écologie, mais aussi de la langue, du féminisme, beaucoup. Et ce qui frappe, enfin moi, ce qui m'a frappé dans vos livres, c'est aussi le rapport particulier que vous mettez en place entre le réel et l'imagination. Et c'est justement ce qui se produit dans « Pourquoi pas la vie ?». Votre dernière parution, publiée par les éditions de l'Iconoclaste, puisque, et ça c'est extraordinaire, c'est une version modifiée de la biographie de la poétesse britannique Sylvia Plath. C'est tout à fait inattendu et assez extraordinaire. Le début est plutôt semblable à la réalité. On retrouve les événements qui ont marqué sa vie, son mariage, son retrait dans l'ombre de son mari poète, ses enfants, sa dépression. Et puis, soudain, tout change. Dans la vraie vie, elle se suicide au gaz suite à une dépression. Mais dans votre roman, elle prend sa place de femme et de poétesse. Et chose mais absolument extraordinaire, elle adapte son roman, La cloche de détresse, en comédie musicale. Il faut le lire pour le croire, parce que c'est quand même un roman qui évoque la dépression, le suicide, enfin des thèmes qu'on imagine mal en comédie musicale, mais vous l'avez fait. Et ce n'est pas la moindre des surprises de votre roman qui est à double fond. Et alors, le lecteur se pose beaucoup de questions, mais on va commencer par le début. Vous avez écrit de nombreux romans pour la jeunesse. Et Pourquoi pas la vie est votre premier roman pour adultes. Il est donc centré sur la vie, les œuvres, l'entourage de la grande poétesse Sylvia Plath. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de travailler sur cette poétesse en particulier ?
C'est une poétesse que j'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années, donc il y a pas loin de 15 ans. Et ça a été un choc artistique et esthétique et existentiel même quand je l'ai découvert. Parce que vraiment, je me suis retrouvée dans ses questionnements, dans ses difficultés, dans ses doutes, dans son désir d'être à la fois une femme, une mère, une écrivaine, comme je pense... plein de jeunes femmes qui la découvrent, vraiment, j'étais proche de ces questionnements. Et donc, parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne, quand j'aime quelque chose, j'ai envie de faire un livre dessus. J'avais envie d'écrire un livre sur elle. Mais il m'a fallu longtemps pour trouver la forme, parce que je réfléchissais à l'idée de la biographie. J'avais commencé à écrire une biographie, mais je me sentais pas non plus... J'avais pas l'impression de trouver ce que je voulais dire sur elle dans la forme biographique. Déjà parce qu'il en existe des dizaines et des dizaines qui sont beaucoup plus documentées que tout ce que j'aurais pu faire. Et puis parce que la biographie, c'était toujours se limiter au réel. Et je pense qu'instinctivement, j'étais insatisfaite de ce réel.
Et à cause de sa fin, peut-être, qui n'était pas une fin heureuse.
Voilà, parce que je savais que j'allais forcément arriver à ça, en fait, à finir mon histoire sur un suicide, si je faisais une biographie. Et ensuite, je sais plus très bien comment l'idée est née, mais en tournant cette envie dans ma tête pendant longtemps, pendant des années, elle m'a accompagnée. Et en réfléchissant aussi petit à petit à la question des fins heureuses, que j'ai un peu plus théorisée dans le petit essai dont vous parliez,
et dont je recommande la lecture parce que c'est passionnant. On a toujours cette manie de dénigrer les happy ends. Ouais. Et là, voilà, j'invite les auditeurs à le lire. Je ferme la parenthèse.
Et je pense que ouais, c'est en parallèle de ma réflexion autour des fins heureuses, autour de la fiction, qui s'est un peu cristallisée, sur laquelle j'ai pu avancer au fur et à mesure que j'écrivais des livres et que je comprenais un peu ce que je faisais. Je crois que j'ai fini par trouver ce déclic-là et me dire, en fait, si je veux raconter Sylvia Plath telle que je la vois, c'est-à-dire vivante, exubérante, drôle, pleine de d'énergie et d'ambition, il faut que je la raconte vivante. Et donc, voilà, il faut que je transforme sa vie et que je parte du côté de la fiction.
Alors justement, que vous apporte cette forme, qui est donc une biographie qu'on peut qualifier plus ou moins d'uchronique, puisqu'il y a un tournant qui est différent. Qu'est-ce que cette forme apporte? Qu'est-ce qu'elle vous permet d'explorer que ne vous permettait pas d'explorer la biographie classique?
Elle me permet d'explorer de... Elle me permet d'aller du côté de l'invention, en fait. Elle me permet de l'emmener dans des chemins dans lesquels on l'imagine pas. On a quand même une image d'elle forcément très tragique, parfois même un peu austère ou à la limite de la folie, toujours, surtout sur la fin de sa vie. Et on sent intervenir, par exemple, le personnage de Greta, et qui va être celle qui va lui proposer d'écrire une comédie musicale à partir de son livre. Je l'emmène dans un domaine qui lui était refusé, en quelque sorte. Et donc, je lui permets de passer aussi dans l'époque, je lui permets de s'inscrire dans un monde qu'elle a jamais vraiment connu. Elle est restée toujours à l'aube de cette des sixties, de la pop culture et de tout ce que ça a transformé dans le monde et qui lui correspondait peut-être mieux.
Finalement, vous lui donnez les moyens et les conditions de s'épanouir, ce qu'elle n'a pas connu.
C'est ça. C'est ça. En tout cas, je lui donne une possibilité. J'imagine que je n'ai pas la prétention de dire que si elle avait vécu, elle aurait vécu cette vie-là. Certainement pas. Mais voilà, je lui donne une vie possible, selon mon interprétation, mes envies aussi, mes désirs, de comment elle aurait pu poursuivre sa vie si elle avait réussi à survivre.
Alors, ça ne doit pas être évident d'écrire justement une biographie de ce type, une biographie uchronique imaginaire. Quels ont été les défis d'écriture spécifiques à la rédaction d'un roman consacré quand même à un personnage littéraire, historique, connu, sur lequel ont été écrites de nombreuses biographies?
Alors, ce qui était compliqué, c'était de trouver un peu le point d'ajustement entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire d'être... je voulais vraiment essayer d'être la plus juste possible. Donc la plus juste d'un point de vue factuel, quand je parlais du réel, quand je parlais de lieux, de personnes qui ont existé, d'événements. Donc là, j'ai compulsé pas mal de biographies, et effectivement, il y en a énormément, et elles se contredisent. Enfin, ce qui était compliqué aussi avec cette personne en particulier, c'est qu'il y a eu énormément de discussions autour de sa vie, de débats, il y a des camps, ça a été très tragique pendant des années, par rapport à son mari, qu'on a accusé de l'avoir tué, en quelque sorte, en tout cas d'avoir provoqué son suicide. Donc leur histoire a été vraiment, tout le monde s'en est saisi. Et donc tout le monde a un avis dessus, et donc j'avais forcément peur à chaque fois d'être dans l'anachronisme ou d'être dans l'erreur biographique. Donc ça, c'était une des difficultés. Mais après, une fois que je passais dans la fiction, une fois que j'ai réussi vraiment à dépasser la scène de départ, la situation de départ dans laquelle elle se trouve et l'emmener avec des personnages de pure fiction dans l'histoire, j'ai réussi un peu à me détacher justement de cette biographie et à accepter de trahir en quelque sorte son histoire pour écrire la mienne.
Alors, avant d'explorer un peu plus avant cette trahison, comme vous l'appelez audacieusement, nous allons faire une petite pause musicale en écoutant votre deuxième titre, Michelle, par Sir Chloé.
You look so nice, I've been so cold. You wanna be my special one? I cannot breathe, please just go home. Michelle, Michelle, You are a monster from hell, Michelle, Michelle. You are a monster from hell. You know just how to be cruel when you shake your hips the way, paint your lips that way. Michelle, Michelle, you are a monster from hell. Michelle, Michelle, ah, ah. Walk in the room, watching you smoke. I'm such a fool. Take off your coat.
C'était Michelle par Sœur Chloé, un choix sonore de notre invitée Colline Pierret. Nous sommes sur Bac FM et elle nous parle aujourd'hui d'un roman au titre fabuleux, Pourquoi pas la vie, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Alors vous parliez, Colline, tout à l'heure de trahison. Ce roman regorge de personnalités, de faits historiques et en même temps d'événements complètement inventés, de personnages inventés. Comment est-ce que vous les avez choisis et traités pour que tout s'assemble en une grande cohérence et une fluidité qui laisse le lecteur croire presque que tout ça est vrai et qui ne voit pas bien, quand il ne connaît pas les détails de la vie de Sylvia Plath, à quel moment on quitte le réel pour l'imaginaire ?
C'est une bonne question. dans les personnages réels, ceux que j'ai choisis, il y a son mari, mais je voulais pas qu'il soit très présent, donc on le croise à quelques reprises, mais c'est pas un personnage fondamental. Et il y a le personnage de Al Alvarez, qui lui a bien existé, qui était un journaliste et un de ses amis. Et j'avais vraiment envie d'explorer un peu leur relation et leur amitié, parce que c'était une amitié naissante au moment où elle est morte. Et c'était une amitié à la fois de travail, de soutien mutuel et d'admiration mutuelle aussi. Et je trouvais qu'elle était, elle était riche, elle était forte. Et elle disait autre chose, peut-être, que toutes les amitiés masculines ou les amours qu'avait eu Sylvia Plath. C'était une relation peut-être plus égalitaire que d'autres. Et donc, j'avais envie de l'explorer. Je savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je savais que ça allait être un des personnages principaux de mon livre. Ensuite, pour les autres, assez rapidement, j'ai voulu mettre des personnages de fiction pour m'autoriser justement à me détacher du réel, en fait. Parce que tant que j'étais que avec des personnages réels, j'avais du mal à aller vraiment, à entrer, disons, dans la fiction et dans mon roman. J'avais toujours un peu peur de me détacher du réel. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à imaginer le personnage de Greta, et puis ensuite à avoir cette idée d'une espèce de sororité qui va se créer autour d'elle et qui va l'aider aussi à trouver sa place.
Alors vous avez choisi donc des personnages imaginaires, des personnages réels, mais surtout un style qui est très lumineux avec des phrases très directes. Quelle différence faites-vous entre cette écriture jeunesse dans laquelle on vous a déjà lu beaucoup et l'écriture pour adultes ? Est-ce que vous avez travaillé votre écriture et comment vous l'avez travaillée pour ce lectorat ?
Alors, je ne suis pas sûre que j'ai tellement changé mon écriture entre la jeunesse et la littérature adulte. Je m'autorise sans doute plus de liberté, on va dire, des phrases plus longues, peut-être un peu plus complexes, peut-être plus d'images. Ou des idées
plus d'images, plus d'images, oui, ça c'est sûr.
Ouais. Mais ensuite, je crois pas avoir fait des gros changements. C'est plutôt les thèmes qui sont abordés, la maternité, le couple, le mariage, voilà, qui sont des questionnements vraiment à hauteur d'adultes, plus que d'enfants ou d'adolescents. Mais j'ai travaillé avec une éditrice qui est Sylvie Gracia et qui vient de la littérature jeunesse, avec qui je travaillais déjà en jeunesse. Et qui m'a fait finalement retravailler mon texte de la même façon qu'elle me faisait retravailler mes romans pour adolescents, notamment, en allant vers l'efficacité, en allant vers une espèce de luminosité, quelque chose de clair, d'évident, des chapitres qui commencent rapidement, toujours quelque chose de limpide. Donc je pense que le travail a été le même finalement entre les deux mondes.
Alors vous venez de parler des thèmes qui sont un peu différents, vous parlez de maternité, vous parlez de couple, les questions féministes, et pas seulement féminines, vous avez mentionné la sororité aussi tout à l'heure, jalonnent ce roman. Est-ce que vous considérez que votre récit est lié à l'actualité de ces réflexions féministes et que l'écrivain ou l'écrivaine a, selon vous, un rôle à jouer dans l'évolution de la société, en particulier sur ces questions, mais éventuellement sur d'autres?
Alors, c'est évident que pour moi, l'écrivain a un rôle à jouer dans la société, parce qu'il me semble qu'un livre n'est jamais neutre. Qu'on choisisse d'être ouvertement politique, d'être même, je sais pas, qu'on se revendique engagé, par exemple, ou qu'on revendique ne pas l'être, c'est déjà dire quelque chose finalement de la société, c'est déjà se placer quelque part. Donc d'une certaine manière, c'est toujours politique et c'est toujours une façon de parler de la société. Et dans ce livre-là, c'est vrai que je l'ai écrit entre 2019 et 2022, et qui est une période pendant laquelle les questions féministes ont vraiment été très largement traité dans les médias, dans des livres, dans des podcasts, et que moi je m'en suis énormément nourrie. Donc ça a infusé dans mon livre, sachant que forcément c'était des questions qui étaient légèrement anachroniques par rapport à mon livre, parce que la façon dont on pense le féminisme aujourd'hui, elle est un peu différente des questions qu'on se posait dans les années 60, qui étaient quand même très liées à la natalité, à la contraception, au mariage, voilà, qui était un début d'autonomie. Mais j'ai essayé quand même de faire infuser tout ça dans mon livre, peut-être par la voix de Greta en particulier, qui est un peu la voix du futur, qui vient de dire à la Sylvia des années 60, regarde comment ça va être plus tard. Elle le dit pas comme ça, mais c'est un peu ce que moi j'avais en tête. Il dit, regarde comment ça va être plus tard et regarde où on va pouvoir aller et ce qu'on va pouvoir encore changer.
Donc c'est une actualité déplacée dans le temps qui vous a permis de faire infuser, comme vous dites, ces différentes idées féministes. C'était l'un des objectifs de votre roman, ou c'est venu en même temps, ou c'était une évidence?
C'est venu en même temps. C'était une question que j'avais du mal à trancher. La façon dont Sylvia Plath s'inscrivait ou non dans le féminisme et dans le féminisme des années 60, elle se définissait jamais elle-même comme féministe. Et par contre, elle a été beaucoup de féministes dans les années 70, notamment, sont emparées de son histoire pour critiquer comme symbole aussi de la femme bafouée, la femme victime, la femme qui est morte à cause de l'oppression masculine. Donc petit à petit, je me suis rendu compte que ça m'intéressait d'en faire une féministe, de la faire s'éveiller finalement aux féministes, parce que c'est, elle, ça vient de l'extérieur et elle découvre ça, mais pas de cette façon-là, pas en tant que victime justement, en tant que femme qui va prendre le pouvoir sur sa vie, qui va faire des choix forts, qui va assumer d'être une mère célibataire, qui va essayer de repenser les relations avec les hommes, essayer de repenser les relations avec les femmes. Voilà, ces questions qu'on se pose finalement aujourd'hui, elle va s'en emparer à sa façon.
Un très vaste programme. Alors, je sais que vous travaillez sur beaucoup de projets à la fois. Donc, si je vous demande, après cette expérience quand même assez originale et différente de ce que vous avez pu faire auparavant, quels sont aujourd'hui vos projets d'écriture en particulier pour les adultes ?
Alors, pour les adultes, c'est un peu tôt pour en parler parce que je commence seulement à réfléchir, mais j'ai d'autres envies et notamment, j'aimerais explorer à la fois côté adulte et côté adolescent la question de la comédie romantique. Mmh. comme j'en ai beaucoup parlé, comme j'en parle dans mon éloge des femmes heureuses, d'essayer voilà d'entrer dans le genre plus frontalement, mais en trouvant ma façon à moi de le faire.
La fin heureuse n'est pas une fin mièvre, hein, comme vous l'expliquez à longueur de page dans cet essai.
C'est ça.
Ce sont deux choses différentes. Donc, vous allez explorer cette thématique à nouveau qui vous tient à cœur.
Oui.
Eh bien, nous attendrons donc avec beaucoup d'impatience ce prochain ouvrage sur les comédies romantiques avec fin heureuse, mais pas avec fin mièvre.
Voilà.
C'est donc sur cette perspective réjouissante, on a besoin de fin heureuse en ce moment, que nous arrêterons malheureusement, car l'émission touche à sa fin. On aurait envie de vous écouter plus longuement, nous parler de fin heureuse, de pourquoi pas la vie. Mais chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il vous suffit de vous rendre chez votre libraire pour trouver Pourquoi pas la vie. Vous le reconnaîtrez facilement à sa superbe couverture vintage. On n'en a pas parlé, mais elle est quand même extraordinaire. Publié, je le rappelle, par les éditions de l'Iconoclaste. Merci beaucoup, Colline, d'avoir passé un moment avec nous sur les ondes de Bac FM. C'était un plaisir. Et je remercie nos chroniqueurs pour leur coup de cœur enthousiaste et notre partenaire, le réseau de librairies indépendantes Initial. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, vous pouvez le faire à l'adresse claire@memorialiste.fr. Cette émission était réalisée et montée par Laetitia Durieux et présentée par Claire Garand. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les voies du livre.